Tout le monde connaît le quartier de la Défense à Paris. Ses gratte-ciels, son centre commercial, le siège des plus grandes entreprises françaises. Mais sous ses centaines de bureaux, de boutiques, sous ces milliers de personnes qui se croisent chaque jour, vous n'imaginez pas ce qu'il se passe dans le plus grand secret. Je vais vous raconter l'histoire terrifiante des sous-sols de la Défense. Je suis passionné d'exploration urbaine et j'ai l'habitude d'aller me balader dans les tunnels du métro et dans divers lieux insolites. C'est pour moi une partie de plaisir et un échappatoire au monde réel et au quotidien. Mais j'ai découvert un endroit beaucoup plus mystérieux, dont je ne connaissais pas l'existence jusqu'à présent. Savez-vous que sous les immeubles de la Défense, sous l'immense centre commercial, se trouvent à plusieurs dizaines de mètres sous terre de longs tunnels, de grands entrepôts de plusieurs milliers de mètres carrés, et ce qui m'a le plus surpris, c'est que tous ces espaces souterrains sont complètement vides et laissés à l'abandon. Imaginez tout cet espace sous nos pieds dont personne ne connaît l'existence et qui ne sert à rien. Étrange, vous ne trouvez pas ? J'ai donc voulu mener mon enquête, et après quelques recherches, j'ai obtenu des informations sur ces fameux tunnels et entrepôts souterrains. Il s'agirait d'une très grande station de métro que devait abriter la ligne 1 lors de son extension depuis le centre de Paris. Cependant, ce projet n'a jamais vu le jour et la station construite est restée vide et inutilisée. Les tunnels, eux, devaient servir d'acheminement pour les câbles électriques. Voilà ce qui officiellement explique la présence de ces milliers de mètres carrés sous terre complètement vides. Mais ça, ce n'est que la partie agréable de l'histoire. Durant ma visite des sous-sols de la Défense, j'ai vu des écritures bizarres sur les murs. Tout un tas de symboles dont je ne connais pas la signification. Il y a également des prénoms écrits sur les murs. On peut lire « Antonin »,« Jérémy », »,« Antoine ». Et certains sont barrés. J'ai trouvé ça très étrange. Dans une autre salle, j'ai vu un lit d'hôpital tout rouillé. Je me suis demandé pourquoi et comment il est arrivé ici. Pour avoir des réponses à toutes mes interrogations, j'ai fait de nouvelles recherches sur des forums sur Internet. Mais les informations sont très rares, car ce lieu très mystérieux n'est pas très connu. Et j'ai l'impression que les quelques personnes qui ont des informations les gardent secrètes. Mais pourquoi ? C'est comme s'il y avait quelque chose à cacher, quelque chose de terrifiant et d'interdit. Et c'est justement ce qui m'a donné envie d'en savoir plus. Je suis donc retourné explorer les sous-sols une nuit, tout seul. Une fois à l'intérieur, il y avait toujours ces prénoms et symboles bizarres sur les murs. J'ai emprunté un tunnel étroit quand soudain j'ai entendu du bruit. J'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai éteint ma lampe, j'étais donc dans le noir complet. J'entendais d'autres personnes parler de manière lente et peu audible, comme s'ils chantaient une chanson mais au ralenti. C'était très étrange. Je voulais en savoir plus. J'ai donc essayé d'avancer très rapidement dans le tunnel jusqu'à la prochaine porte pour tenter d'apercevoir quelque chose, mais très discrètement pour ne pas me faire repérer. Je trouve une petite ouverture dans le mur qui me permet d'entrevoir ces autres personnes. Ils étaient une dizaine, je dirais, éclairés par un feu de camp très vif, vêtus de robes blanches et recouverts par ce qui ressemblait à des taches de sang. En voulant prendre une photo avec mon téléphone, j'avais oublié d'enlever le flash. Ils se sont alors tous retournés vers moi. J'ai paniqué et je me suis enfui. J'ai couru le plus vite possible que je le pouvais dans ce long tunnel. J'arrive à trouver une sortie et à remonter à la surface. J'étais donc en sécurité, mais je n'ai pas pu obtenir plus d'informations. Le mystère reste entier. Que se passe-t-il dans les sous-sols de la Défense ? Qui étaient ces personnes et que faisaient-ils ? Étaient-ce simplement des jeunes qui faisaient une soirée improvisée ? Je n'en sais rien. Mais j'en doute. Je veux avoir des réponses à toutes les questions que je me pose. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de très étrange ici, et je ne veux pas rester là. Après plusieurs semaines de recherches difficiles et infructueuses, j'ai pu enfin obtenir quelques informations. J'ai parcouru le dark web, car sur internet il n'y avait rien. Juste d'autres mecs comme moi qui sont allés se balader dans les sous-sols, mais sans plus d'informations sur ce qu'il s'y passe vraiment. J'ai donc pu voir des vidéos assez terrifiantes, où l'on voyait des sortes de rituels, avec une assemblée de personnes habillées de drap blanc. Les vidéos sont toutes floues et courtes, mais je comprends très vite qu'il ne s'agit pas simplement d'une bande de jeunes qui font la fête. Sur un autre site du dark web, je suis tombé sur un forum où des membres parlent de sacrifices d'enfants, de kidnapping. Un autre affirme que les noms écrits sur les murs seraient ceux d'enfants mystérieusement disparus depuis plusieurs années. Comme par exemple Damien, un enfant disparu le 14 février 2018. Son nom est écrit avec ce qui ressemble à du sang sur le mur d'un des tunnels. Tout cela serait l'œuvre d'une secte interdite et officiellement disparue depuis plus de 20 ans, mais qui continuerait d'opérer des sacrifices, entre autres dans les sous-sols, car ce lieu est inconnu et à l'abri de tous les regards. Il serait responsable de dizaines d'enlèvements d'enfants pour les sacrifier dans le but d'honorer leur croyance mystique, un dieu connu sous le nom de Yaya, qui est lui aussi écrit un peu partout dans les sous-sols. C'est terrifiant. Les membres de cette secte seraient fous et incontrôlables. Certains seraient des échappés d'hôpital psychiatrique. D'autres seraient des politiques influents et il y aurait aussi des hauts dirigeants de grandes entreprises. Il n'y aurait aucune information sur Internet pour garder leur anonymat. Ils feraient supprimer toutes les photos, vidéos et témoignages pour se protéger et ne pas révéler leur existence. Qui n'a jamais voulu savoir ce qu'il y a après le terminus du métro? Si comme moi vous êtes curieux de le savoir, alors cette histoire est faite pour vous. On connaît tous la ligne 14 du métro parisien, la plus moderne, la plus récente, mais qui pourtant cache bien des secrets. Je me suis toujours posé la question de ce qu'il peut y avoir après le terminus du métro, et je ne pensais pas découvrir un tel secret. J'utilise la ligne 14 tous les jours pour aller au lycée. Je descends au terminus, la station Saint-Lazare. Enfin, comme je suis curieux, je voulais savoir ce qu'il se passerait si je restais dans le wagon au moment où le chauffeur demande aux voyageurs de descendre. Je suis donc allé faire des recherches sur Internet. J'ai trouvé plein de vidéos de mecs qui se sont filmés en restant dans le métro après le terminus. J'ai été déçu car il ne se passait rien d'intéressant. Le train effectuait simplement un demi-tour pour repartir dans l'autre sens. Cependant, j'ai été intrigué par plusieurs commentaires qui parlent de tunnels secrets et de stations abandonnées. J'en avais déjà entendu parler. Ça a éveillé ma curiosité. J'ai donc voulu poursuivre mes recherches pour en savoir plus, mais je n'ai rien trouvé sur Internet. Et puis, il y a eu ce jour, dont je me souviendrai toute ma vie. Le jour où j'ai décidé d'aller voir par moi-même. C'était un dimanche après-midi. Je monte dans le métro. J'attends avec impatience d'arriver jusqu'à la dernière station, pour peut-être enfin avoir des réponses à mes questions. Ça y est, le métro s'arrête, je suis arrivé au terminus, gare Saint-Lazare. Tout le monde descend, sauf moi. Je me cache sous un siège pour ne pas me faire repérer par les caméras de sécurité. Quelques secondes plus tard, toutes les lumières du wagon s'éteignent, les portes se ferment et le train démarre. Je suis stressé et excité à la fois. Qu'est-ce qu'il va m'arriver? Je commence à regretter d'avoir fait ça. Le train avance lentement. C'est très glauque, car vu qu'il est vide, il n'y a aucun bruit. Juste celui du train qui roule avec les roues qui grincent. Et tout ça dans le noir le plus complet. À ce moment-là, une sensation étrange m'envahit. Un sentiment de solitude. Comme si je suis seul au monde, abandonné du monde réel. Je m'attends à ce que le train s'arrête et à ce qu'ils repartent dans l'autre sens, comme j'avais vu sur toutes les vidéos sur Internet. Mais il continue d'avancer lentement. Puis, d'un coup, il accélère. Je suis alors chahuté dans tous les sens, car dans le noir, je ne sais pas où me tenir. Ça fait déjà plus de 10 minutes que le train avance à grande vitesse. Puis il freine, d'un coup, tellement fort que ça me propulse contre la paroi du wagon. Le train est à l'arrêt, grand silence. Pas un bruit. Noir total. J'allume la lampe torche de mon téléphone portable. Quelques secondes plus tard, toutes les portes s'ouvrent en même temps. Le bruit résonne dans ce qui ressemble à une grande station de métro abandonnée. Je suis là, au milieu de cette station fantôme. Je viens de me souvenir que cette ligne est automatique. Il n'y a pas de conducteur. Je suis donc bien seul. Pas de réseau, pas de lumière à part la lampe de mon portable. Et surtout, aucune sortie. C'est très curieux. Pas de tags sur les murs en béton. On dirait une station toute neuve qui n'a jamais servi. Les portes qu'il devait y avoir sont toutes condamnées. Le train est toujours là. Il ne repart pas. Il reste immobile, portes ouvertes. Je m'aventure dans la station et je trouve une petite ouverture dans le mur. De quoi pouvoir m'y aventurer. Derrière, il y a des escaliers. Je lève la tête. Il y a au moins 30 mètres de hauteur. Je monte. 10 minutes plus tard, je suis arrivé en haut. J'emprunte un couloir étroit. Et j'aperçois que sur les murs, il y a écrit en grandes lettres rouges « Yaya ». À ce moment-là, une sueur froide me traverse tout le corps. Car je viens de me souvenir que j'ai déjà vu ça ailleurs. Vous vous souvenez ? C'était quand j'avais exploré les sous-sols du quartier de la Défense. J'avais vu ce nom écrit un peu partout sur les murs. J'avais fait des recherches et découvert qu'il s'agit du nom d'un démon dont est fidèle une secte qui hante les sous-sols de Paris. Je vous le raconte dans l'épisode précédent. Vous pouvez aller l'écouter, c'est très mystérieux. Cette secte a déjà dû venir ici. Je ne suis peut-être pas seul. Je continue mon aventure. Cela fait déjà 2 heures que je suis ici. Je marche de couloir en couloir. Ça me paraît sans fin. J'aperçois une lumière au loin. J'avance. C'était une vieille porte en métal, ouverte. Peut-être une sortie. Je passe la porte et je me retrouve dehors au milieu d'une forêt. Des arbres à perte de vue. Je suis perdu au milieu de nulle part. Toujours pas de réseau sur mon téléphone. La nuit commence à tomber doucement. Devant moi, j'aperçois un énorme bâtiment abandonné, qui ressemble à un ancien hôpital. Les fenêtres sont cassées, les murs noircis, tout est dans un sale état. Je m'approche d'une grande porte. Sur le mur, il y a une plaque avec inscrit « Hôpital psychiatrique du Grand Ouest ». J'entre à l'intérieur, il y avait encore ce nom, « Yaya », écrit en grandes lettres rouges un peu partout sur les murs. J'ai pris peur, je ressors. De toute façon, je n'ai pas le temps. La nuit commence à tomber. Je dois partir. Mais je ne sais pas où aller, car je suis au milieu de nulle part. Complètement perdu. Je me demande d'ailleurs comment je me suis retrouvé ici, au milieu d'une forêt et d'un ancien hôpital psychiatrique. Pris de panique, je me mets à courir à travers la forêt. Au bout de 10 minutes, je m'arrête, essoufflé. Au loin, j'aperçois des maisons. Je reprends mon souffle et je me remets à courir dans cette direction. J'arrive dans un petit village. Toutes les maisons sont sans fenêtres, sans portes. Tout est défoncé. Il n'y a personne. Ça ressemble à un village abandonné. Je traverse la rue principale à la recherche de quelqu'un qui peut m'aider. Mais il n'y a personne. Je suis seul. La nuit est presque là. J'ai peur, j'ai faim. Je me fais à l'idée que je vais passer la nuit ici. Au coin d'une rue, j'entends le bruit d'une voiture qui roule lentement. Je regarde. C'est une voiture de police. Me voyant, ils sortent de leur voiture et me pointent avec leurs armes. Je lève les mains, me mets au sol, ils m'arrêtent. Je monte dans leur voiture et on part. Pendant le voyage, ils me posent plein de questions. Ils veulent savoir comment je me suis retrouvé ici. Je leur dis que je me suis perdu. À ce moment-là, ils m'expliquent que j'étais dans un village abandonné et interdit au public car très dangereux. Il y aurait des criminels qui se cachent ici et dans la forêt. Ils me disent que j'ai eu de la chance de ne pas me faire tuer. J'apprends que nous sommes à 40 minutes de Paris. C'est alors que plein de questions me traversent la tête. Comment je me suis retrouvé ici, si loin du centre de Paris d'où je suis parti quelques heures plus tôt? Qu'était ce village abandonné au milieu d'une forêt dont je n'ai jamais entendu parler? Qui sont ces criminels? Et pourquoi ce lieu est gardé si secret? Je venais de découvrir un lieu mystérieux dont personne ne parle. Une chose est sûre, c'est que cette forêt et cet hôpital ont un rapport avec la secte dont j'ai découvert l'existence pendant ma visite des sous-sols de Paris. Il faut que je continue mes recherches. Je suis sûr qu'il se passe quelque chose de pas clair ici. Je veux savoir d'où vient cette secte. Quel est son but? Qui en fait partie? Qui est ce démon Yaya? Quel est cet hôpital psychiatrique abandonné? Je vais continuer mes recherches. Tous les éléments associés les uns aux autres devraient certainement révéler beaucoup de secrets. Vous avez sûrement déjà entendu parler des Illuminati ou des francs-maçons, ces groupes qui soi-disant dirigent le monde. Entre fantasmes et réalité, aujourd'hui je vais vous parler de l'existence d'une secte bien plus terrifiante qui hante toute l'Europe dans le plus grand secret depuis des siècles. Une secte composée de fous sortis d'un asile psychiatrique et de criminels. Dans les précédents épisodes, je vous ai raconté avoir découvert que des rituels sataniques ont lieu dans les sous-sols de Paris. J'ai également découvert l'existence d'un village fantôme qui n'apparaît sur aucune carte et dont personne ne connaît l'existence. Tous ces lieux étranges semblent avoir un rapport entre eux, mais je ne savais pas lequel. C'est après plusieurs semaines de recherche que j'ai découvert l'existence de cette secte, et je vais vous raconter sa terrible histoire. Êtes-vous prêt à percer son mystère ? Ouvrez grand vos oreilles et fermez votre porte-à-clés, on ne sait jamais. Elle n'a officiellement pas de nom, je vais l'appeler La Révolte. La Révolte a été créée au Moyen-Âge. C'était un petit groupe secret composé de quelques rebelles qui voulaient renverser le pouvoir et la religion. Ils voulaient construire un nouveau monde, un monde sans privilèges, un monde d'égalité et de justice. Leur mouvement était illégal car il était considéré comme révolutionnaire et quand il fut découvert, ils furent tous guillotinés. Ce fut la fin de la secte. Ils avaient échoué. Pendant des siècles, nous n'en avons plus entendu parler. La secte avait totalement été oubliée. Ou plutôt, son existence avait été cachée et gardée secrète. Mais en réalité, elle n'a jamais été dissoute. Il existe des traces qui prouvent que la secte n'a jamais vraiment disparu. On peut en trouver des preuves sur Internet, mais c'est surtout dans les sous-sols de Paris que ça se passe. C'est d'ailleurs là que j'en ai découvert l'existence. Comme je vous l'avais raconté, lors de mes explorations urbaines, j'ai découvert des choses étranges dans les souterrains de Paris. Des rituels sataniques, des prénoms d'enfants écrits au sang sur les murs, des livres d'incantations démoniaques et de sacrifices. Les membres de la secte seraient composés de fous issus d'un asile psychiatrique qui aurait pris feu il y a plus de 30 ans. Il se situait à l'est de Paris, en plein milieu d'une forêt. À la suite de ce tragique incendie, tous les fous se seraient enfuis dans la nature et n'auraient jamais été retrouvés. La plupart se seraient réfugiés dans les sous-sols de Paris, dans les catacombes, dans le réseau du métro, et certains seraient encore cachés dans la forêt qui entoure l'ancien hôpital psychiatrique, aujourd'hui en ruine. Autrefois, il était desservi par une station de métro qui a aujourd'hui été condamnée par mesure de sécurité. La forêt où il était, ainsi que le village juste à côté, ont été mis en quarantaine et rayés de la carte, au point que personne n'en connaît l'existence. Toutes ces mesures ont été prises car ces fous sont incontrôlables et très dangereux. Personne ne devrait aller s'aventurer là-bas car il risquerait de ne jamais en revenir. Certains des anciens pensionnaires de l'hôpital sont des adorateurs de Satan et rêvent de renverser le pouvoir pour créer leur nouveau monde avec leurs propres règles, tout comme voulaient le faire leurs confrères au Moyen-Âge. Ils se sont réunis et ont fait perpétuer la secte, mais cette fois-ci bien pire que celle qui avait été créée au Moyen-Âge car cette dernière est beaucoup plus violente et dangereuse. Ils ne veulent pas simplement renverser le pouvoir, ils veulent contrôler le monde. Créer une nouvelle religion démoniaque, faire régner la terreur. Ils sont tous fous. Ils sont devenus des criminels et honorent un démon qui s'appelle Yaya. D'ailleurs, son nom est écrit un peu partout dans les sous-sols de Paris, car c'est là-bas qu'ils se réunissent la nuit pour faire leur cérémonie de sacrifice. Ils sont responsables de centaines de kidnappings d'enfants qu'ils sacrifient au nom de leur démon pour avoir plus de force et de pouvoir. Dans la vie de tous les jours, ils occupent tous des postes importants dans de grandes entreprises et certains font carrière en politique. Ils se sont créés un véritable réseau d'influence qui leur permet d'occuper les plus hautes fonctions du pays. Ils utilisent leur influence pour rassembler toujours plus de partisans. Ils veulent devenir encore plus puissants pour un jour réussir à renverser le pouvoir et dominer le monde. Aujourd'hui, la secte est devenue très grande et influente. Elle rayonne dans toute l'Europe. Il se dit même qu'elle dirige notre continent dans le plus grand des secrets en ayant infiltré les plus hautes instances. Je ne sais pas vous, mais cette histoire me fait froid dans le dos. Au fur et à mesure de mes recherches, je commence à avoir peur de ce que je vais découvrir. Depuis, je ne suis jamais retourné faire des explorations urbaines dans les sous-sols de Paris. J'ai peur de me retrouver nez à nez avec eux et de me faire enlever ou même tuer. Mais pourtant, je meurs d'envie d'y retourner car je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Ma prochaine aventure sera dans les catacombes de Paris. J'ai entendu plein de choses là-bas. Certains auraient vu des rituels s'y produire et des personnes qui y sont allées n'en sont jamais revenues. Il y a plein de choses mystérieuses à découvrir. Je suis certain que cette secte a encore plein de secrets à révéler. Je vais continuer d'enquêter et je vous raconterai tout dans un prochain épisode. Je vais en découvrir plus sur l'histoire de leur démon Yaya. Je vais en découvrir plus sur les conditions de leur évasion de l'hôpital psychiatrique. Je vais également en savoir plus sur le mystère de cette ville fantôme qui est aujourd'hui rayée de la carte et dont personne ne connaît l'existence. En attendant, faites attention à vous. Si cette histoire vous a donné envie d'aller vous balader dans les sous-sols de Paris pour voir de vous-même, faites attention à ce que vous pouvez y trouver. Si vous voyez écrit sur les murs des prénoms d'enfants ou le nom du démon Yaya, faites vite demi-tour, n'y allez pas. C'est le signe que la secte est passée par ici et qu'elle y reviendra sûrement. Tout le monde a déjà entendu parler des catacombes de Paris, et certains d'entre vous y sont peut-être déjà allés. Mais savez-vous que seulement 1% sont autorisés aux visiteurs ? Tout le reste a été condamné et est interdit d'accès. La raison est évidente. Ce sont des carrières trop anciennes et très dangereuses. Il y a un risque d'éboulement et certaines parties sont même inaccessibles. Pourtant, malgré cette interdiction, nombreux sont ceux qui s'y aventurent. Ils empruntent une petite entrée secrète cachée quelque part dans Paris, un petit passage très étroit plongeant à plus de 30 mètres sous terre. Beaucoup d'entre eux n'en sont jamais revenus, et quelques survivants n'ont jamais eu le courage d'y retourner. Il paraît qu'il se passe des choses très étranges là-bas. Vous me connaissez, toute cette histoire m'intrigue et j'ai voulu aller voir par moi-même. Par chance, j'en suis revenu sain et sauf, et je vais vous raconter ce qu'il s'est réellement passé là-bas. Voici l'histoire terrifiante des catacombes interdites de Paris. Il existe plus de 300 km de carrières souterraines et un seul kilomètre est autorisé aux visiteurs. À l'origine, ces carrières ont servi à fournir les pierres et matériaux pour construire la ville de Paris. À la fin du XVIIIe siècle, pour désengorger les cimetières parisiens, plus de 6 millions de corps et d'ossements y sont enterrés. Comme vous pouvez alors l'imaginer, une ambiance très macabre règne dans les catacombes. C'est un lieu très obscur et terrifiant, où il fait nuit pour l'éternité. Entre cadavres et ossements, des centaines de galeries se croisent. Partout sous Paris, c'est un vrai labyrinthe. Comme vous, j'ai déjà entendu parler de tout ça. Je connaissais l'existence de ces catacombes interdites aux visiteurs et secrètes. J'ai trouvé quelques vidéos sur Internet. Ça a éveillé ma curiosité. Surtout que, sur l'une d'entre elles, j'ai cru apercevoir des salles de rituels et des inscriptions sur les murs qui me sont familières. Des prénoms d'enfants et le nom du démon Yaya. Vous vous souvenez ? Je vous en ai parlé dans les épisodes précédents. Ça a été le déclic. Il faut absolument que j'aille enquêter dans ce lieu. Même si c'est interdit et très dangereux, je dois y aller pour peut-être avoir des réponses à mes questions. La plupart des personnes qui y vont n'en reviennent jamais, et les quelques-uns qui en sont revenus ne veulent plus y retourner. Malgré cette peur qui commence à m'envahir, ma curiosité est trop forte. Il faut que j'y aille. Le problème, c'est que les catacombes sont une vraie forteresse. Impossible d'y accéder. Aucune entrée officielle. Aucun plan. Rien du tout. Après quelques recherches sur le dark web, j'ai obtenu la localisation d'un accès au souterrain. Je vais le garder secret car je ne voudrais pas que vous alliez là-bas. C'est trop dangereux. Samedi soir, 18h, je suis devant l'entrée. C'est un petit trou dans le sol, pas plus grand que moi. Je me demande d'ailleurs si je vais réussir à passer. Je jette d'abord mon sac à dos, dans lequel j'ai pris de quoi boire et manger, au cas où je reste plusieurs jours là-dessous. Puis, c'est à mon tour. Je glisse sur au moins 10 mètres et je tombe au sol. Je regarde en l'air et j'aperçois la lumière du jour qui passe par le trou par lequel je viens d'entrer. Je me demande comment je vais réussir à remonter par là. Peu importe, je suis à l'intérieur des catacombes, c'est ce que je voulais. L'endroit est très humide, dans le noir complet. J'ai pris une lampe torche pour m'éclairer. Je n'ai pas de plan, il n'en existe pas. J'avance donc dans les galeries au hasard. J'ai un peu peur, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je vais peut-être faire des mauvaises rencontres, je ne sais pas. J'avance, de galerie en galerie. Sur les murs, il y a le nom des rues qui se trouvent à la surface, ainsi que la profondeur. Ici, je suis à 36 mètres sous terre. Il n'y a personne. Mes pas résonnent jusqu'à des centaines de mètres plus loin. Je dois parfois traverser des passages d'eau d'au moins 30 cm de profondeur. Soudain, alors que ça fait déjà plusieurs heures que je marche sans savoir où je vais, j'aperçois une petite ouverture dans un mur où il est écrit au-dessus « Ici commence le royaume des morts ». J'avoue que sur le coup, ça me glace le sang. Mais peu importe, j'y vais. Après tout, je suis là pour ça. J'emprunte ce petit passage très étroit. Je ne suis pas claustrophobe, mais ici, l'oxygène commence à se réduire, je suis de plus en plus essoufflé et je me sens oppressé. J'arrive dans une petite pièce avec des bancs disposés en cercle autour d'une table, des livres un peu partout, beaucoup de poussière, des tags sur les murs avec des dessins assez effrayants de pendus et autres crimes. L'ambiance est très pesante. Être seul ici n'est pas rassurant. Je regarde les livres. Il y a de tout. Peut-être que chaque personne qui est passée ici a déposé le sien. L'un attire mon attention plus qu'un autre. « Initiation à la magie noire » est inscrit sur la couverture. Je décide de ne pas l'ouvrir et de continuer ma visite. Je continue donc de traverser de longs couloirs. L'oxygène diminue encore plus. je dois marcher plus lentement pour ne pas m'essouffler trop vite. Quand tout d'un coup, au croisement de deux galeries, je me retrouve nez à nez avec une statue. Sur le coup, je panique. Avec la fatigue et le stress, j'ai cru que c'était une autre personne. J'ai eu peur. Je regarde cette statue. Elle est imposante. Elle est très effrayante aussi. Il s'agit d'un homme avec une tête de chèvre et des ailes d'ange, assis sur un trône, levant le bras droit et faisant un signe que je ne comprends pas. En levant la tête, j'aperçois un pentagramme gravé sur le mur au-dessus. C'est alors que je manque de m'évanouir. J'ai devant moi la statue du démon Baphomet. Je suis donc dans un temple satanique. Je suis terrorisé. Je me retrouve au milieu d'un temple démoniaque, seul, à 36 mètres sous terre. Et si quelqu'un arrive, je fais quoi ? Sur les murs, il y a tout un tas de choses écrites avec du sang. Des prénoms d'enfants, des noms de démons, des chiffres. Je ne comprends pas le sens de tout ça, mais il doit y en avoir un. Il y a aussi des bancs et des livres. L'endroit est assez grand, plus grand que les autres salles que j'ai pu visiter. Cependant, l'ambiance est très pesante ici. Au sol, il y a une trappe. Je ne sais pas ce qu'elle renferme et je n'ose pas l'ouvrir. À ma droite, un long tunnel attire mon attention. J'entends un bruit au loin qui résonne jusqu'à mon oreille. Quand soudain, j'aperçois la lumière d'une lampe torche. Puis deux, puis trois. Quelqu'un arrive. Ils sont plusieurs même. Je panique. Je n'arrive plus à réfléchir tellement j'ai peur. Je me cache derrière les rochers qui se trouvent dans un coin de la pièce. J'éteins ma lumière et j'attends. J'ai le cœur qui bat très vite. Je suis essoufflé, mais je me force à ne faire aucun bruit. Qui sont ces personnes qui arrivent ? Que vont-ils me faire s'ils me trouvent ? Quelques secondes plus tard, ils rentrent un par un dans la pièce. Ils sont au moins une vingtaine, tous vêtus d'un long drap noir, tous masqués. Je ne vois pas leur visage. Ils s'agenouillent tous devant la statue et se mettent à prier pendant plusieurs minutes. Ça me semble durer une éternité. Au fur et à mesure que le temps passe, je réalise que je suis en train d'assister à une messe satanique. À la fin de leur prière, ils vont tous s'asseoir sur les bancs disposés en cercle. L'un d'eux se positionne en hauteur sur un trône et semble présider la cérémonie. « Mes confrères, adeptes de Satan, membres de la révolte, nous allons aujourd'hui accueillir un nouveau membre parmi nous, » dit-il. À ce moment, un homme est amené au milieu des autres, les mains ligotées par une corde dans le dos. Il s'agenouille au milieu des autres et dit « Je promets d'être fidèle à notre maître et à mes confrères jusqu'à la domination suprême. Un jour, nous vaincrons. » Ils récitent alors tous une prière dont je ne comprends pas le sens, puis se lèvent et repartent par le même tunnel par lequel ils sont entrés. Ça a duré au moins une heure. Une heure pendant laquelle j'ai eu peur à chaque instant qu'ils me trouvent et qu'ils me tuent. Mais j'ai survécu. Et j'ai enfin la preuve que cette secte démoniaque existe bien. Maintenant, je dois ressortir d'ici. Et ça ne va pas être facile car je me suis complètement perdu. Je décide d'emprunter le même tunnel qu'ils ont pris pour repartir. Je marche sur plusieurs centaines de mètres pour arriver dans un cul-de-sac. Au-dessus de moi, un puits étroit avec une vieille échelle rouillée. Peut-être que ça va me permettre de remonter à la surface. Je monte l'échelle qui doit faire au moins 30 mètres de haut. Je suis épuisé et mort de fatigue. Je me force à ne pas lâcher les barreaux. La chute pourrait être fatale. Une fois arrivé en haut, j'ouvre une plaque d'égout et j'aperçois la lumière du jour. Je suis arrivé à sortir de cet endroit. Enfin. Je suis soulagé, mais c'est avant de me rendre compte que je suis en plein milieu d'une forêt. Des arbres autour de moi à perte de vue. Mais où suis-je ? Attendez un instant. Je connais cet endroit. J'y suis déjà venu ici. Mon Dieu. Mais c'est la forêt que je vais visiter après avoir découvert la station secrète de la ligne 14 du métro, celle qui a été fermée par mesure de sécurité. Je vous avais raconté tout ça dans l'épisode précédent. Vous vous souvenez ? C'est ici qu'il y avait l'hôpital psychiatrique, aujourd'hui abandonné, duquel se sont échappés tous les fous qui sont membres de la secte. Suite à leur évasion, cette station de métro qui desservait l'hôpital a été condamnée, ainsi que la forêt et le village voisin. Tout ça par mesure de sécurité, car il y a eu de nombreux crimes commis par la secte ici. Désormais, j'ai des réponses à mes questions, mais d'autres m'obsèdent encore. J'angoisse d'avoir découvert tous ces terribles secrets. Ça ne me semble pas réel. Vous imaginez tout ce qu'il se passe autour de nous sans que nous nous en rendions compte ? Il y a plein de choses à découvrir. Mais en attendant, il est 21h et il faut que je rentre chez moi. Il faut que je sorte de cette forêt. Mais attendez, qu'est-ce que je vois au loin ? Ce sont les ruines de l'hôpital psychiatrique. Il semble y avoir de la lumière à l'intérieur. Je vais aller voir. Mais ça, je vous le raconterai dans le prochain épisode.